étude sur
parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Pour l'enregistrement, nous sommes en train de lire le psaume 50, verset 3. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui concluent une alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux annonceront ou annoncent sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Alors donc le tribunal est mis en place. Ça c'est la première partie. Le procès va commencer. Et maintenant il y a deux accusations. Première accusation, verset 7. Écoute mon peuple, et je parlerai Israël. Je témoignerai contre toi. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau de ta maison, ni des boucs de tes bergeries, car tous les animaux de la forêt sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qui le remplit. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? En sacrifice, offre la reconnaissance. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est comme ça plutôt que ça doit se passer, la relation avec Dieu. Deuxième accusation. Et Dieu dit aux méchants, maintenant c'est aux méchants. Quoi donc? Tu énumères mes prescriptions et tu as mon alliance à la bouche? Ou dans certaines versions, de quel droit est-ce que tu énumères mes prescriptions et prends-tu à la bouche mon alliance? Toi qui détestes l'instruction et qui jettes mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue tisse la tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tue. Tu t'es imaginé que j'étais comme toi. Quelle imagination! Mais je vais te faire des reproches et tout mettre sous tes yeux. Comprenez donc cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui en sacrifice, maintenant la bonne manière de faire pour la deuxième accusation, celui qui en sacrifice offre la reconnaissance me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, ou plus exactement, celui qui réordonne, qui rééquilibre sa voie, qui se repent, je ferai contempler le salut de Dieu. Un moment, et pensez au psaume 50 ensemble, afin d'envisager cette nouvelle année avec le Seigneur. Nous avons lu ce psaume ensemble, et nous avons vu qu'il y a une scène de tribunal. Ce n'est pas le dernier jugement ici. Comme vous avez vu, Dieu dit, je ne vous reproche pas pour vos sacrifices, vous pouvez continuer. Donc la vie continue, ce n'est pas la fin du monde. Mais Dieu met en scène un procès contre son peuple et contre nous, afin de nous éviter de devoir passer dans le tribunal final dans un mauvais état. D'accord? Donc, il nous montre à quoi ressemblerait ce jugement final si nous devions le passer dans cet état mauvais. Et donc, dans les sept premiers versets, six premiers versets, il y a la mise en scène que je vous relis. Dieu, en hébreu, El. Dieu, on dit deux fois Dieu, mais en hébreu c'est El Elohim. Alors Elohim est un autre mot pour Dieu, mais qui dans le contexte, on pourrait dire Dieu, le Dieu majestueux, l'Éternel, convoque la terre. Ah, il nous convoque. Depuis le soleil levant jusqu'à son couchant, de Sion, de l'Église, à partir de l'Église, Dieu resplendit en beauté parfaite. C'est plutôt comme ça. Notre Dieu, chers amis, est un Dieu qui n'est ni silencieux ni lointain. Il convoque, il parle constamment, et depuis l'Église et son annonce de l'Évangile, il parle au monde constamment et il annonce qu'il est d'une beauté incroyable. Il est un Dieu de miséricorde, de grâce, de gloire insondable. Il est lumière, brillant dans son caractère. Il y a toutes les gloires et les merveilles possibles. Et il parle comme ça tout le temps. Il parle à travers sa création, mais il parle de Sion par son évangile. Donc Dieu est un Dieu qui parle, mais, et il parle tout le temps, mais il est un Dieu qui vient parfois. Nous lisons dans le verset 3, il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Ça vous rappelle de quoi? Le Dieu qui vient avec un feu dévorant et une violente tempête, Sinaï, n'est-ce pas? La montagne est embrasée de feu, il y a toutes ces. La nature est en bouleversement parce que c'est une rencontre solennelle de Dieu avec son peuple. Donc ici, ce n'est pas n'importe quelle venue, c'est une venue pour juger. Vous savez que Dieu parle tout le temps, mais parfois, il parle en venant. Je vous demande, quand est-ce que quelqu'un doit venir pour parler et doit vous sommer de venir pour écouter? Quand est-ce que vous devez être présent? Vous ne pouvez pas entendre de loin ou par courrier ou par téléphone un message. Quand est-ce qu'il faut légalement être là? Ben, c'est au tribunal, n'est-ce pas? On dit en français, il faut comparaître. Et c'est de ça que on parle maintenant parce que Dieu parle tout le temps, mais il vient pour parler d'une manière spéciale. Et ça, c'est quand il juge. Et donc nous lisons que il dit, il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger. Justement, c'est le tribunal pour juger. Rassemblez-moi mes fidèles qui concluent une alliance avec moi par le sacrifice et les cieux annoncent sa justice car c'est Dieu qui est juge. Donc Dieu arrive, il convoque la terre entière. D'accord? Tout le monde doit être là. Il y a un feu dévorant devant lui et on dirait qu'il va juger les méchants, mais étonnamment, c'est pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui concluent une alliance avec moi par le sacrifice. Vous savez que la Bible dit que le jugement commence par le peuple de Dieu. Voilà. Mais ici, comme je vous ai dit, ce n'est pas le jugement final, c'est une scène qui nous rappelle du jugement final. Et nous voyons que les cieux annoncent sa justice dans le verset 6. Les cieux annoncent sa justice car c'est Dieu qui est juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent dans la Bible, quand on dit les cieux parlent, en fait, ça veut dire les anges. D'accord? Donc, on peut imaginer les anges qui annoncent la justice de Dieu. Dieu est là comme juge et que vous savez que dans certaines cours suprêmes, peut-être au Brésil ou en France, dans d'autres pays, on est tous là et quand le juge arrive, il est le dernier arrivé dans la salle, et quand il arrive, on dit tous debout devant l'honorable juge un tel. Et tout le monde se met debout, n'est-ce pas? Et c'est un peu comme ça, les anges annoncent sa justice. Il est là, il est le juge juste de Dieu éternel, tous debout ou tous à genoux. Voilà. Donc nous avons cette mise en scène de ce jugement. Et Dieu veut nous apprendre par tout cela, et c'est assez terrifiant, que nous devons vivre avec sagesse maintenant dans cette nouvelle année. Et qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est vivre cette vie ici-bas comme si c'était un compte à rebours. Un compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6. Dieu va venir à la fin. Le jugement vient. Il nous donne un jugement temporaire, hypothétique maintenant, pour nous rappeler que il y a le jugement qui arrive. Vous savez qu'un étudiant, si il veut vivre avec sagesse son année scolaire, il doit vivre son année scolaire comme un compte à rebours. Il sait qu'il y a les examens finaux. Et s'il tient compte de ça constamment, il vit différemment maintenant. Il bosse, il étudie, il prépare pour les examens, et quand les examens arrivent, il est tranquille. N'est-ce pas? Mais quelqu'un qui oublie ce qui doit venir et qui vit maintenant dans l'oubli du jugement final va vers le désastre. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, je ne sais pas si vous comptez vos jours, mais la Bible nous pousse par ce passage biblique à savoir que il y a un Dieu qui est notre juge et notre sauveur, et nous devons vivre à la lumière de la fin. Ok, maintenant, deux accusations. Dans les versets 7 jusqu'au verset 15, il y a la première accusation. Dieu va prendre une partie de son peuple, une partie de vous peut-être, et il va leur donner une accusation. Ensuite, il va se tourner vers une autre partie de son peuple et donner une autre accusation. Et dans ces deux accusations, nous voyons deux problèmes que nous avons constamment dans la vie chrétienne. Deux manières dont nous pouvons commencer à déraper un peu dans notre relation avec Dieu. Et Dieu nous remet d'aplomb. Donc nous allons essayer de comprendre ces deux accusations. Première accusation, dans le verset 7. Le verset 7 nous dit ceci. Écoute mon peuple, je parlerai, Israël, je témoignerai contre toi. Je suis Dieu, ton Dieu. Dans cette première phrase, il nous donne une petite idée de ce qui ne va pas avec ce premier groupe. Et vous allez voir comment. Ils sont en train d'agir comme si Dieu n'est pas Dieu et n'est pas leur Dieu. Mais de quelle manière? On va lire pour essayer de comprendre. Il va nous dire d'abord ce qui n'est pas le problème. Verset 8. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. C'est comme s'il nous disait, au niveau du comportement extérieur, rituel, vous êtes bien. Vous donnez les sacrifices comme il faut, j'ai pas de problème avec ça. Vous, ici, devant moi, vous venez à l'église. Peut-être vous donnez, vous témoignez aux autres, vous lisez la Bible chaque jour, vous priez. C'est pas pour ça que je vous reproche. Extérieurement, tout est en place. Mais il y a des fausses croyances vis-à-vis de Dieu que nous entretenons parfois. Nous commençons à croire des choses qui sont indignes de Dieu. Et on va voir ces fausses croyances. Les versets 9 à 13. Je ne prendrai pas un taureau de ta maison, ni des boucs de tes bergeries, car tous les animaux de la forêt sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui le remplit. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Vous savez que au temps de ce psaume, les nations autour d'Israël croyaient que ils faisaient des sacrifices aussi. Mais ils croyaient que leur Dieu mangeait la chair des sacrifices et buvait le sang. Et dans un document de l'Antiquité, qui est assez fameux, c'est un document de païen, qui s'appelle le Gilgamesh épique. La déesse qui s'appelle Ishtar se lament du manque des sacrifices. Et elle dit qu'elle a trop faim. Et donc, Israël, apparemment, a commencé à penser que le vrai Dieu créateur voulait des sacrifices parce qu'il avait besoin. Qu'est-ce qui arrive quand on commence à penser que Dieu a besoin de nous? Dieu devient un peu un parent appauvri et dépendant dont on doit s'occuper, n'est-ce pas? Vous pouvez voir cette personne qui est un peu dépendant de vous, mais qui est un peu exigeant. Moi, j'ai besoin encore, j'ai besoin. Donnez-moi, donnez-moi. Et ça tue. Si on a un tel Dieu, ça tue toute possibilité d'une relation personnelle, de gratitude et de dépendance vis-à-vis de Dieu. Parce que ce Dieu est dépendant de nous. Et il est exigeant, donne-moi, donne-moi. Et ça change la relation entre vous et Dieu de deux manières. Quand on dédivinise Dieu, quand on enlève de Dieu sa transcendance. Premièrement, ça change votre religion parce que c'est vous, c'est l'homme qui devient la personne qui donne les provisions. Et dans la religion de certains qui se disent chrétiens, la vie chrétienne, c'est faire quelque chose pour Dieu, faire quelque chose pour Dieu, donner, donner, donner. Et ça, c'est vraiment le cœur de leur relation avec Dieu. C'est la base, c'est ce que moi je fais pour Dieu. Ça, chers amis, c'est une fausse religion, selon ce psaume. Deuxièmement, la deuxième manière dont votre religion peut être faussée par un petit Dieu, c'est non seulement que vous êtes celui qui donne et Dieu est celui qui reçoit, mais tout cela engendre simplement une vie de rituel. Tout ce qui se passe entre toi et Dieu se passe par rituel. Vous faites des sacrifices, vous faites ce qu'il faut, parce qu'un Dieu petit et dépendant, on ne peut pas avoir une relation de dépendance, une relation de cœur à cœur, de compagnon avec lui. Et donc, vous voyez dans le verset 14, la correction de tout cela. Ce que Dieu veut plutôt, regardez bien. En sacrifice à Dieu, offre la reconnaissance Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Les vœux, c'est ce que je fais en gratitude parce que Dieu m'a béni. D'accord? Invoque-moi au jour de la détresse. C'est moi qui donne. C'est moi qui délivre. Je suis Dieu, ton Dieu. Accomplis tes vœux. Invoque-moi au jour de ta détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est-à-dire, vous avez tout mis à l'envers, on va remettre ça à l'endroit. C'est moi le Dieu qui a tout, qui possède tout, qui donne tout, qui sauve, qui délivre, qui bénit. Votre première relation avec moi, c'est non pas de donner, de faire, mais de remercier parce que je suis toujours en train de faire. Et deuxièmement, dépendez-vous de moi, invoquez-moi. Dans la vraie vie chrétienne, votre première place, c'est d'être un récipient. Ce n'est pas la dernière chose que vous faites, mais c'est la première. Vous ne pouvez rien faire de bon, sauf si ça vient du fait que Dieu vous a donné d'abord. OK? Et lorsque Jean nous parle de la venue du Christ, il nous dit que nous avons vu, la parole est devenue chair, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils de Dieu, pleine de vérité et de grâce, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. La venue de Jésus a inauguré une nouvelle sorte de relation avec Dieu pour ses disciples, dans lequel, d'abord, il est venu, il nous a sauvés, il nous a bénis, il nous a délivrés, il nous a donné grâce sur grâce. Et à partir de là, nous, on répond. Donc, Dieu n'a pas besoin de nous, n'est-ce pas? Nous avons besoin de lui. Et il le veut comme ça. Ça doit être comme ça. Et il le veut comme ça. C'est vraiment l'évangile, n'est-ce pas? Et quand Dieu nous dit au début de cette accusation, je suis Dieu, ton Dieu, c'est une affirmation de compagnie, n'est-ce pas? Je suis Dieu, ton Dieu. N'entretiens pas avec moi une religion de rituel, simplement. Je suis à toi, je suis ton Dieu. Et donc, il nous appelle à vivre une relation de cœur, une confiance et une dépendance cordiale, aimante, affectueuse avec lui. Offre des sacrifices de reconnaissance. Vis avec moi dans la connaissance de ce que je vous donne, je vous sauve par Jésus-Christ. Invoque-moi. Vois ce que je suis capable de faire pour vous. Vous savez qu'il y avait un grand évangéliste dans le 19e siècle qui s'appelait D.L. Moody. Moody a amené des dizaines et des dizaines de milliers de personnes à Jésus-Christ. Et quand il était jeune homme, il est allé des États-Unis en Europe pour la première fois, en Angleterre, et il a rencontré un autre homme de Dieu bien plus âgé, un homme de prière qui s'appelle George Muller. Et Muller a dit au jeune Moody, Moody, Dieu, le monde n'a pas besoin de voir ce que D.L. Moody peut faire pour Dieu. Le monde a besoin de voir ce que Dieu peut faire pour D.L. Moody. Ça a changé la vie de Moody. Et c'est exactement le message de cette première accusation. Donc, en vivant cette nouvelle année, sachant que Dieu est Dieu, il est votre Dieu. Il vous appelle à vivre dans la reconnaissance du fait qu'il est le Dieu qui donne en premier, qui délivre. Et notre partie, c'est de se faire délivrer par lui. Et de glorifier son nom. C'est formidable. La deuxième accusation, on va aller un peu plus vite. La deuxième accusation est envers un autre groupe du peuple de Dieu. Parce que ça commence dans le verset 16 par ces mots. Et Dieu dit aux méchants. Maintenant, c'est les méchants. Mais ce n'est pas les méchants qui ne sont pas religieux, ce n'est pas les athées. C'est les méchants qui sont religieux. Parce que regardez la prochaine phrase. Quoi donc? Tu énumères mes prescriptions et tu as mon alliance à la bouche. Mais le problème, c'est que ces gens détestent, toi qui détestes l'instruction et qui jettes mes paroles derrière toi. Alors, nous avons ici des gens qui sont pas comme le premier groupe. Le premier groupe a perdu de vue la bonté toute-puissante de Dieu. D'accord? Ce groupe perd de vue ce que la bonté de Dieu nous appelle à faire en réponse. D'accord? Parce qu'un Dieu qui est tellement bon, ça ne se laisse pas sans réponse. Ça oblige une réponse convenable, n'est-ce pas? Mais ces personnes, ils ont l'alliance de Dieu à la bouche. L'alliance, c'est la promesse par laquelle Dieu se lie à nous pour nous aimer et nous bénir. Ils ont cette alliance sur la bouche, mais c'est tout, sur les lèvres. Et ils n'aiment pas la correction. Vous détestez l'instruction, vous jetez mes paroles derrière toi. Le problème avec nous parfois, les amis, c'est que nous oublions que la bonté de Dieu et le salut en Christ, tout ce qu'il fait pour nous, cela aussi nous impose quelque chose. Dieu est incroyablement bon, mais cette bonté vient pour nous bénir et pour nous imposer que nous soyons comme lui. La bonté de Dieu est un don, mais aussi un appel à être bon, comme Dieu lui-même est bon. Mais il y a des gens qui veulent être religieux, mais rester comme ils sont. Veulent avoir le statu quo. Et quand la bonté de Dieu et les paroles de Dieu montrent qui est Dieu et comment je dois être, ils disent non. Moi, je veux ce que Dieu me donne, mais je ne veux répondre en aucune façon à cette bonté de Dieu. Ils jettent les paroles de Dieu derrière eux. Et ça, c'est vrai. Il y a des gens qui entendent. Et nous le faisons tous, n'est-ce pas? Quelque part. Mais parfois, nous le faisons vraiment grandement. Nous entendons ces paroles de Dieu, ça ne nous convient pas parce que ça nous appelle à ne plus faire telle chose. À arrêter, à changer. Et nous jetons ces paroles derrière nous. Nous ne voulons pas répondre. Donc, ce groupe de personnes. On se demande parfois comment on peut aller à l'église et vivre dans l'immoralité. Parce que regardez ces gens. Dans le verset 18, tu vois un voleur et tu te plais avec lui. Ou tu prends plaisir en lui. Vous savez qu'il y a des gens qui ne volent pas, mais ils prennent plaisir aux voleurs. Parfois, parce qu'on est chrétien, on n'ose pas vraiment faire l'acte, mais on aime bien regarder ceux qui le font. On regarde des films, on regarde des séries télévisées où les gens font des choses qu'on ne devrait jamais faire. Et on prend plaisir à ces gens. C'est terrible ça. Tu vois un voleur, tu te plais de lui, ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, ta langue tisse la tromperie, tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que j'étais comme toi. Ah, voilà la réponse. Je me suis demandé, mais comment est-ce que quelqu'un peut venir à l'église et quand même agir de la sorte? Parce qu'il s'imagine que Dieu est comme lui, c'est-à-dire indulgent vis-à-vis du mal. Il pense que quand nous disons Dieu est plein de grâce, que ça veut dire Dieu est plein d'indulgence. Que le mal, oui, oh les enfants, les jeunes seront les jeunes, laissez-les faire, n'est-ce pas? Mais vous vous êtes imaginé que la grâce voulait dire ça, que j'étais comme vous. Et Dieu nous dit aujourd'hui, je ne suis pas du tout comme ça. Ma bonté est une bonté intolérante du mal. C'est intéressant, n'est-ce pas? Pas intolérant du pécheur. Il vous aime, il est patient avec nous. Mais le mal ne peut pas être toléré par le bien. Tout comme la lumière ne peut que chasser les ténèbres. Les deux ne peuvent pas exister. Moi, je ne peux pas allumer la lumière dans cette salle sans que les ténèbres soient complètement chassées. Parce que la lumière ne supporte pas les ténèbres. Et Dieu dit, je ne suis pas comme vous. Moi, je ne peux pas supporter que vous restiez dans le mal, que vous restiez souillés. Je vous aime trop pour cela. Et donc, nous avons Jésus qui chasse les vendeurs du temple parce qu'il est bon. Il est tellement bon qu'il ne peut pas laisser le temple dans un tel état horrible. La bonté de Dieu impose le changement bénéfique. Maintenant, je termine en disant que cette accusation, Dieu ne le fait pas pour condamner. Tout comme la première accusation, il ne l'a pas fait pour condamner. Ce n'est pas un verdict final qui case quelqu'un en prison. Cette accusation est faite pour corriger. La première accusation, rappelez-vous, Dieu finit en disant, je remets des choses à plan. Alors, offrez à moi des sacrifices de reconnaissance, invoquez-moi au jour de la détresse, je vous délivre et vous me glorifiez. Donc, il a tout corrigé. C'était le but. N'est-ce pas? Ici, c'est la même chose. Regardez comment la correction vient. C'est pas. Ah oui, c'est la porte. C'est pas grave, c'est pas grave. On est tout à la fin là. Verset 23, le dernier verset. Celui. Je vais quand même lire le verset 22. Comprenez donc cela, vous qui oubliez Dieu, c'est important, il y a l'oubli de Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Regardez, il ne dit pas je vais vous déchirer ou je veux vous déchirer. Il dit comprenez tout ce que je viens de dire de peur que je vous déchire. C'est-à-dire, mon but en vous parlant, c'est de ne pas vous déchirer. C'est de vous éviter cela. Et maintenant, la solution. Il dit en verset 23, celui qui en sacrifice offre la reconnaissance me glorifie, et à celui qui, qui règle sa voix, je vais le traduire comme ça, qui règle sa voix, je ferai voir le salut de Dieu. Même pour les méchants. Même si vous avez oublié Dieu, si vous avez vécu dans tous ces péchés, c'est incroyable pour moi. Dieu vient vous dire, je suis honnête avec vous, je vous avertis ce que je ferai si vous ne changez pas, mais ma raison pour vous parler, c'est pour vous dire, maintenant, changez, je vous offre le salut. Il dit, offrez à moi la reconnaissance. Comment est-ce que je peux offrir la reconnaissance à Dieu, je viens de vivre une vie méchante, parce que le salut est dans cette parole. Il dit, maintenant le salut est déjà achevé, il est déjà là, il est déjà à vous, il est déjà offert. Prenez-le, offrez la reconnaissance à Dieu, de ce qu'il est venu vous avertir et vous détourner de votre voie. Il dit donc, celui qui offre la reconnaissance en sacrifice me glorifie, et à celui qui règle sa voie, c'est-à-dire qui se repent et qui se tourne vers Dieu dans la vraie conversion, je montrerai le salut de Dieu. Quelle manière de finir une scène de jugement. Dans les deux accusations, je te délivrerai et tu me glorifieras, tu me remercieras et je te montrerai mon salut. Voilà pourquoi Dieu vient vers nous parfois de manière solennelle pour nous rappeler de la fin et du jugement. C'est simplement que nous puissions nous rappeler qu'il est Dieu, ton Dieu. C'est lui qui donne, c'est lui qui sauve, c'est lui qui est bon. Et d'abord, soyez confiants, soyez dans une relation véritable, pas dans le rituel. Confiez-vous à lui. Il est ton Dieu qui sauve en Jésus-Christ. Et deuxièmement, répondez à sa bonté en corrigeant vos voies, en écoutant ses paroles au lieu de les jeter derrière vous. Réglez votre voie pour que vous soyez bon comme il est lui-même bon. Et tout cela n'est que formidable. Il n'y a rien de mauvais dans tout cela. Merci Dieu pour ton plan, pour la manière dont tu nous fais vivre dans cette relation avec toi. Nous allons chanter, si on peut chercher Nicky, merci Anne, dans le carnet numéro 13, un chant qui parle justement de la confiance que nous avons dans le Seigneur.